Alors, bonjour à tous, c'est toujours sympa de vous saluer de l'estrade. Ce matin, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit « alors ça va ?» J'ai dit « oui, ça va, je transpire déjà. » Et je me suis dit ce matin « ah tiens, je comprends mieux pourquoi on avait baissé le chauffage cet hiver. » Parce que des fois, on a, quand on prépare la prédication, on a un petit peu chaud. Voilà. En plus, ce matin, j'ai fait des squats parce que Loïc ne m'a pas prévenu de un peu le déroulé du culte. Donc, à la fin de la louange, il a dit « on va accueillir ». Ah, je commence à me lever. Et puis après, là, les annonces. Ah, j'ai fait quelques squats, je continue à transpirer. Mais après, non. Sérieusement, quand on le détourne de nous-mêmes et puis on le lève vers le Seigneur. Alors, eh ben, ça va mieux, on se sent vraiment en paix. C'est vraiment une joie pour moi de vous partager ce matin. Alors, je vais commencer par prier. Seigneur Jésus, on veut être à l'écoute de ta parole ce matin. On veut se laisser éclairer par ta parole. On veut prendre de la bonne nourriture de ta parole, Seigneur, et repartir rassasié, Seigneur. Sois le maître ce matin, Jésus. Sois au milieu de nous. Amen. Alors, ce matin, je vous propose de continuer sur notre chemin à la recherche de Dieu. Je vous propose de continuer la route et de bouger. Et pour cela, ce matin, je vous propose de faire un bout de chemin. Si j'arrive, je l'ai allumé. Bon, on va le faire manuellement. Ce sera mieux. On va faire un bout de chemin du tombeau vide jusqu'à la tente de la rencontre. Alors, ce que j'appelle le tombeau vide, peut-être pour certaines personnes ne le savent pas, c'est la sépulture où le corps de Jésus a été déposé après sa mort. Ça ressemble à ça. Tu peux passer à pied de deux clics. Voilà. Et puis, la tente de la rencontre, ou le tabernacle, ben, c'était une tente spéciale, construite selon les instructions de Dieu à Moïse. Dans cette tente, il y avait une arche, l'arche de l'Alliance, et cette arche d'alliance, elle symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et du coup, cette tente a été dite tente de la rencontre parce que c'était là où Dieu habitait au milieu de son peuple. Dieu a dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et donc, c'est ça la tente de la rencontre. Alors, si vous connaissez un petit peu votre Bible, vous devez vous dire que ce déplacement que je vous propose ce matin, eh bien, il ne se fait pas dans le bon sens. Vous devez vous dire que c'est un retour en arrière. Et ce n'est pas faux. C'est vrai que chronologiquement, la tente de la rencontre, enfin le tombeau vide, c'était il y a 2000 ans, et la tente de la rencontre, ben, c'était il y a 3500 ans. C'est un retour en arrière. Mais on va voir que ce n'est pas si évident, peut-être pas sûr, dans notre recherche de Dieu ce matin, que ça soit un retour en arrière. Alors, je trouve que de toute la Bible, de toute la révélation, il y a un temps spécial, un temps assez court, mais que je trouve un peu perturbant, qui a laissé les proches de Jésus assez tristes et même perplexes. Ben, ce temps, ce sont les 3 jours après la crucifixion, juste après. Je n'entrerai pas dans les détails sur les questions de décompte de ces 3 jours, ça nous importe peu ce matin, mais simplement, on va lire un passage dans Luc qui nous raconte l'expérience de 2 disciples juste après, pendant ces 3 jours, surtout au 3e jour. Voilà, on va le lire ensemble. Ces disciples, c'est les disciples d'Emmaüs. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » J'aimerais juste qu'on s'arrête un instant pour nous mettre à la place de tous les disciples, tous les proches de Jésus, parmi lesquels on trouve aussi pas mal de femmes, Marie, Marie de Magdala, Jeanne. On peut imaginer à ce moment-là que dans ce temps, ben, c'est la tristesse, c'est la peur, peut-être même un peu de désarroi. Il faut se rendre compte, le royaume de Dieu s'est approché avec des miracles, avec des guérisons, avec une puissance manifestée comme jamais, une autorité comme on n'a jamais vue. Les disciples avaient un feu intérieur qui leur a fait quitter femme et enfant. Et voilà maintenant que Jésus a été crucifié. Alors maintenant, que faire ? Dans ce temps post-crucifixion, dans ces 3 jours, la Bible elle nous dit que des femmes proches du Seigneur ont décidé d'aller au tombeau pour y amener des aromates, pour embaumer le corps de Jésus. Une façon pour elles d'honorer celui qui demeurait unique à leur cœur. Et la suite de Luc, elle nous parle de ces femmes, elle nous dit « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. » Donc c'est les disciples d'Emmaüs qui disent ça. Ils disaient ça à Jésus, mais sans le reconnaître. « S'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. » Voilà, les femmes se sont rendues au tombeau. Alors honnêtement, si c'est moi qui avais écrit les évangiles, si c'est moi qui avais raconté l'histoire, j'aurais peut-être écrit quelque chose de différent. Un truc du genre, les hommes se levèrent de bon matin, prirent leur courage à deux mains, bravant leur tristesse, pour aller honorer la dépouille de Jésus, les femmes étant retournées à leur petite besogne. Mais les évangiles ne disent pas ça. Non, non, ce sont bien les femmes qui sont présentées au tombeau. Je trouve ça extraordinaire. Donc les femmes rentrent au tombeau, et là, ben, y a un premier étonnement, une première surprise. Le corps de Jésus n'est plus là. Et ensuite, 2 anges leur parlent. Devant leur perplexité, devant l'absence de corps, il n'y a plus de cadavre. Les anges ils vont dire à ces femmes, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Je crois que c'est une question qu'on peut s'adresser à nous-mêmes ce matin de la part de Dieu. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Les femmes, elles sont vraiment dans l'incompréhension devant le tombeau vide. Est-ce que nous, ça nous arrive parfois d'être perplexes devant des circonstances qu'on ne comprend pas, des choses inexplicables, inexpliquées ? Il me semble que c'est quelque chose qu'on peut traverser parfois, qu'on peut vivre, parce que nous aussi, pour beaucoup, dans nos vies, dans nos expériences personnelles, ben, on a vu le royaume de Dieu s'approcher. Pour beaucoup, ben, on s'est converti. On a sûrement ressenti fort la présence de Dieu. On a peut-être vécu des libérations physiques, spirituelles. On a senti très fort cette présence. Et pourtant, aujourd'hui, ben, c'est vrai que parfois, devant certaines circonstances, nous ne comprenons pas. Dieu n'est pas là où on l'attendait. Alors aussi, chercher Dieu parmi les morts, c'est quand on est conduit par nos présupposés. C'est lorsqu'on a des concepts de Dieu. L'homme est très fort pour faire ça. Par exemple, au départ, Israël, le peuple d'Israël, ils n'attendaient pas trop un sauveur du profil de Jésus. À un moment donné, il y a eu, sur la fiche de poste qui était inscrite sur leur pensée, le sauveur devait paraître, on va dire, dans une autre gloire, dans quelque chose de beaucoup plus glorieux. Quelque part, il y a eu une erreur de casting pour eux. Et ouais, ils présupposaient la venue d'un libérateur politique, quelqu'un qui allait les libérer de l'oppression et de l'occupation romaine. Ils avaient espéré une personne plus prestigieuse, plus royale, alors que Jésus est né dans une étable, dans l'étable. Il n'y avait plus de chambre à l'hôtel. C'était vraiment la loose, là. Le seum, comme disent les ados. Et en plus, il est né dans un corps tout frêle, tout humain, tout fragile. Et où est passé le guerrier qu'on attendait sur son cheval vaillant ? Jésus, il est rentré à Jérusalem, à dos d'âne. Et en plus, il s'est assis à la table des pécheurs. Et en plus, il a mangé avec les collecteurs d'impôts. Et le voilà qui finit, crucifié à côté de deux truands. Quelle misère ! De toute évidence, ce n'est pas celui qu'on attendait. C'est ce que disent les disciples d'Emmaüs. Nous espérions que ce soit lui, le libérateur d'Israël. Est-ce que nous, ça nous arrive de nous faire de fausses idées sur Dieu ? Est-ce que ça nous arrive de dire « Dieu n'est pas celui que nous attendons, que nous attendions ?» Et ouais, parfois on a des concepts sur Dieu, on a des concepts sur le culte, on se fait des concepts de l'Église. Peut-être que Dieu nous dit à travers les paroles de l'ange, c'est que Dieu, on ne le rencontrera jamais au tombeau parmi les morts. On ne le rencontrera jamais dans nos conceptions humaines. On ne rencontrera pas Dieu dans nos certitudes humaines. Mais alors, où est passé Dieu ? Où il est passé ? Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur il nous parle de la tente de la rencontre. L'ancienne, celle que je vous ai montrée au début. Il nous dit que toutes les prescriptions concernant cette tente étaient une ombre à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. On peut mettre la diapo. Bon, j'ai rien trouvé de mieux, je suis désolé. J'aurais pu faire un montage. Non, remets là, c'était la diapo d'avant. Comme si la tente de la rencontre que je vous ai montrée, c'était l'ombre et qu'il y avait quelque chose de plus réel, de plus céleste à découvrir derrière ce point d'interrogation. Est-ce que ça pourrait être le tombeau ? Ben non, ce n'est pas le tombeau, parce que le tombeau, il est vide. Le tombeau, c'est une impasse. On n'y trouvera jamais Dieu. Alors, si la tente de la rencontre de Moïse n'est qu'une ombre, une représentation imparfaite des choses à venir, alors, si le tombeau vide est une impasse, alors quelle est cette tente plus excellente derrière le point d'interrogation où je peux rencontrer Dieu ? Quelle est cette tente qu'on pourrait dire originelle, parfaite, excellente et qui donne son ombre à la première ? Alors, on va revenir à nos disciples d'Emmaüs et lire la suite. Alors, Jésus leur dit « Ô homme sans intelligence !» et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Alors j'ai envie de dire, nous, on est à la recherche de Dieu depuis 2 mois et eux, les disciples d'Emmaüs, ils ont Jésus juste à côté d'eux et ils ne le reconnaissent pas. C'est un peu fou, non ? En plus, Jésus, il va leur expliquer tout, les Écritures, et ils ne le reconnaissent pas. Ce n'est pas suffisant. En fait, savoir des choses sur Dieu et le connaître vraiment, ben c'est vraiment 2 choses radicalement différentes. On peut savoir plein de trucs sur Dieu sans vraiment le connaître, sans vraiment avoir une relation avec lui. Des fois, je discute avec des patients, je leur témoigne de ma foi, je leur parle de Jésus et je leur parle de Dieu. Ils disent « Ah, mais moi, je connais le Dieu de la Bible, je connais. Ah ouais, je suis allé au catéchisme. Je critique pas le catéchisme. Mais en fait, ils savent plein de trucs, plein d'histoires qu'ils ont appris au catéchisme. On leur a appris plein de trucs sur Dieu. Mais est-ce qu'ils le connaissent vraiment? C'est difficile. Alors pour nos disciples d'Emmaüs, une des explications de pourquoi ils ne reconnaissent pas Jésus, ça serait peut-être de comprendre que leur pensée rationnelle, leur intelligence, produisait une sorte de déni. Peut-être que pour eux, c'était tout bonnement impossible rationnellement que cette personne qu'ils avaient enterrée, qui a été crucifiée 3 jours auparavant, soit le Jésus qui avait été crucifié. Pour eux, peut-être qu'il y avait un déni intellectuel. Peut-être que la raison agissait comme un voile. Je ne sais pas, en tout cas, ça les empêchait de voir Jésus tel qu'il était. Mais malgré ça, il s'est quand même passé quelque chose dans leur cœur. Parce que la parole nous dit, ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Alors, comme argument, pour essayer de convaincre Jésus, ils invoquent le soir qui approche. À mon avis, ce n'était pas ça. À mon avis, c'était une excuse, le soir qui approche. C'est surtout qu'ils avaient envie de prolonger l'expérience. Parce que manifestement, il y avait quelque chose de spécial. Peut-être nous, on a déjà ressenti ça, comme une chaleur dans la présence de Dieu. Mais on est un peu resté à distance. Si tu peux mettre la diapo d'après. Là, je vais reprendre une image donné par C.S. Lewis. Vous savez, cet auteur là, chrétien qui a écrit Narnia, enfin, où il est chrétien, plutôt apologète, dans la défense de la foi. C.S. Lewis, il donne cette image. On peut marcher au bord de la mer, ressentir parfois les petites vagues sur nos pieds, mais rester sur la plage et simplement tourner la tête de temps en temps vers l'étendue magnifique des eaux. Ouais, c'est agréable ce ressac sur nos pieds, ces petites vaguelettes. C'est magnifique cette étendue d'eau, mais on reste au bord. Et le Seigneur ne nous appelle pas à rester au bord. Il nous appelle à rentrer tout entier dans l'eau, à traverser complètement. Je pense que c'est dans cet appel, c'est ce qu'ils ont ressenti, les disciples d'Emmaüs. Ça les pressait dans leur cœur. Ils pressèrent Jésus. Ils avaient envie de traverser. Ils avaient envie de pas rester. Ils voulaient pas rester au bord. Ils avaient soif de plus. Et puis le texte nous dit que enfin leurs yeux s'ouvrent. À la fraction du pain, ils reconnaissent Jésus. Alors je sais pas. Peut-être qu'ils ont reconnu Jésus quand il a rompu le pain. Peut-être qu'ils ont vu ses mains percées. Ou peut-être que c'est le fait que Jésus rentre en communion, en live, je dirais, avec eux, directement. Mais en tout cas, Jésus se révèle à eux, ils voient qui est Jésus. Et Jésus, c'est le ressuscité. Et ouais. Et ça renverse toutes nos conceptions, tous nos concepts, tous nos présupposés. La résurrection, ça change tout. Parce que Jésus ressuscité, c'est vraiment celui qu'il disait être. C'est vraiment celui que nous attendions. La résurrection, moi ça me touche, et j'ai envie de vous partager ça ce matin, c'est que ce n'est pas un simple fait historique à côté d'autres faits historiques. La résurrection, c'est le fait au-dessus de tous les faits. C'est l'impossible qui devient possible. C'est vraiment l'événement qui bouleverse toute l'humanité. C'est l'espoir qui renaît dans toute la création. Amen. Et la résurrection, c'est la possibilité, la vraie, de connaître Jésus. Pas juste savoir des trucs sur lui. C'est la possibilité de le connaître. Cette résurrection, elle est tellement déraisonnable, j'ai envie de dire. C'est déraisonnable. C'est au-delà de notre raison. Et donc, le texte nous dit que, à peine reconnu comme le ressuscité, le voilà qui disparaît, à nouveau. Mais cette fois, pour les disciples, pas question d'aller au tombeau. Ils décident de retourner à Jérusalem, de faire demi-tour. Et dans l'évangile de Matthieu, on apprend que les femmes sont les premières à voir Jésus ressuscité. Et elles aussi, le Seigneur leur dit, ne restez pas là, allez rejoindre les frères en Galilée. Être témoin de la résurrection, ça nous pousse à quoi ? Ça nous pousse à partager cette bonne nouvelle et à nous rassembler. Voilà, après la résurrection, la communauté des disciples, elle a envie de se rassembler. Elle se rassemble. Et cette communauté, elle devient la communauté des sauvés. Ce matin, il y a eu plusieurs paroles sur la renaissance. Oui, la communauté des nés de nouveau, c'est la communauté des ressuscités. Et cette communauté des ressuscités, eh ben, ce n'est rien d'autre que l'Église. Donc notre point d'interrogation de tout à l'heure, ce chemin sur lequel j'aimerais que vous encouragez, vous partagez et qui m'a touché ce matin, c'est sortir du tombeau, de nos craintes, de nos peurs, de notre tristesse, de notre désarroi, de notre perplexité. Sortir du tombeau et aller vers le tabernacle, la tente de la rencontre parfaite, excellente, qui est l'Église. Tu peux mettre la diapo d'après ? Encore ? Vas-y. Voilà. Ma femme a dit, oula, c'est pas beau ça. J'ai dit, c'est pas beau, mais j'ai rien trouvé de mieux. J'ai dit, tu préfères que je mette une photo du CMLK de nous ? Et ouais, le tabernacle parfait, la tente de la rencontre, c'est l'Église. C'est celle-là dont la première tente était l'ombre imparfaite. Et l'apôtre Pierre nous rappelle et nous dit « Rapprochez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » Voilà, quand Dieu nous semble absent, quand nous sommes troublés dans nos attentes, venons le retrouver dans l'Église. Nous-mêmes avançons comme des ressuscités et comme des pierres vivantes. Voilà, soyez bénis, je vais prier. Seigneur, ce matin, je te prie pour ceux qui ont senti ta présence, qui l'ont expérimenté, mais qui ont à cœur de continuer de te presser pour que tu restes avec eux. Je te prie pour ceux qui ont soif de plus et qui désirent prolonger l'expérience ce matin, peut-être. Seigneur, je te prie pour que tu te révèles à eux. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont vécu des temps de perplexité ou qui vivent un temps de perplexité devant des circonstances inexpliquées, inexplicables, où il semble que tu n'es pas là où on t'attend. Ben, Seigneur, je te prie pour que tu te révèles à nous. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne trouvent pas leur place dans l'Église ou qui la trouvent trop imparfaite, trop... un peu dispensable, pas besoin de l'Église, qui peut-être s'en sont éloignés à cause de déception. Seigneur, je te prie pour que tu te révèles à eux. Combien ils sont aussi des pierres vivantes et que l'Église, comme un édifice saint, royal, un sacerdoce royal et vivant, et bien c'est là que tu nous appelles à te rencontrer, Jésus. Alors sois glorifié, Seigneur, ce matin. Continue de te révéler à nous. Amen.